en ce 31 octobre, à Rencontre spirituelle, j'ai pensé consacrer l'émission à une grande conversion, le grand converti qu'a été l'abbé de Rancé, le fondateur, si on peut dire, des trappistes, c'est-à-dire le réformateur des cisterciens. Il a vécu au XVIIe siècle, et on sait que les cisterciens datent de plusieurs siècles plus tôt. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous signale que dans les monastères, dans les mains des prêtres qui récitent encore leur bréviaire, j'espère qu'ils le récitent tous, eh bien, les deux premiers vers d'un hymne qui se récite aujourd'hui à la veille de la Toussaint, c'est « Heureux celui qui garde les mains vides et laisse l'or et l'orgueil aux avides ». C'est le résumé, au fond, de la vie de l'abbé de Rancé et de nombreux trappistes, comme nous en avons à Oka, tout près de Montréal, ainsi qu'à Mistassini, au lac Saint-Jean, et un peu partout à travers le monde. Ici, Raymond Beaugrand-Champagne. Cet abbé de Rancé, qui portait le prénom d'un cardinal, Armand Jean, il était d'ailleurs le filleul d'un cardinal, le cardinal de Richelieu. C'était quelqu'un d'une grande richesse. Un jour, le 28 avril 1657, celui que on nommera par la suite l'abbé Tempête, tellement il va devenir un abbé de monastère strict et exigeant, un peu trop peut-être, eh bien, ce 28 avril 1657, à 5 heures du matin, cet homme dont le nom au complet était Armand Jean Le Boutillier de Rancé, chanoine de Notre-Dame de Paris, abbé de Saint-Symphorien-les-Beauvais, abbé de la Trappe, abbé du Val-Notre-Dame, abbé de Saint-Clémentin-en-Poitou, prieur de Boulogne, aumônier du roi. Il en avait des revenus, hein. Tout ça, c'était des revenus. Il vivait pas dans ses monastères. C'était un prêtre séculier. Or, il montait, ce 28 avril 1657, l'escalier de l'hôtel de Montbazon à Paris, puis il y a croisé M. de Soubise. Et M. de Soubise lui a murmuré, en effet, « Monsieur, la farce est jouée. » La farce est jouée. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était pour Armand Jean de Rancé comme un coup de cravache, un coup de fouet. Il s'est effondré sur les degrés de pierre, sur les marches. Pourquoi s'est-il effondré? C'en était fait. Cette duchesse de Montbazon, qui était née Marie de Bretagne, venait de mourir. Or, l'abbé de Rancé, oui, prêtre, l'aimait. Et c'était même sa maîtresse. Mais le soir même, l'abbé de Rancé regagnait son château qu'il avait hérité de son père. Lui, Armand Jean, le boutillier de Rancé, qui était filleul de Richelieu, cardinal de Richelieu, comme je vous l'ai dit, mais dont il avait, comme je vous l'ai dit, reçu les prénoms en janvier 1626. Il est né en 1626. Sa marraine était la marquise d'Effia. C'était la femme du surintendant des finances. Elle va lui ménager une entrée de plus à la cour, comme si c'était nécessaire. Son père, déjà lui, est conseiller du roi, président de la chambre des comptes de Bourgogne, conseiller au conseil de la reine Anne d'Autriche. Je vous signale ça, c'est pour vous dire comme il appartenait à une très grande famille. On peut tout oublier ça, mais c'est juste pour vous éblouir un peu. Et quelques années encore, il va franchir un autre degré. Il devient, son père, conseiller d'État, vice-amiral et lieutenant général du commerce et de la navigation de France en Picardie, etc., etc., etc. Alors, ce jeune Armand Jean de Rancé, tout enfant, a un brillant avenir devant lui. Mais l'exil de la reine-mère trouble son bonheur. Alors, la bonté de Richelieu pour la famille de son petit filleul va s'évanouir sans retour, et avec lui, mais les espérances qu'il semblait promettre à son fiel et à sa famille. Et comble d'infortune, bien en 1635, je vous rappelle, il est né en 26, donc il a 9 ans, Armand Jean, bien, son frère aîné François, sur la tête de qui, du moins, s'amoncèlent les bénéfices, n'est-ce pas, tous les deux, surtout lui, Armand Jean, il a un canonicat, 3 abbayes, un prieuré, comme je vous ai dit, sans négliger le titre d'aumônier royal, mais il tombe dangereusement malade. Moins de 2 ans plus tard, son frère François est mort. Sa maladie, traînée en longueur, elle a laissé à leur père le temps de transférer sur la tête d'Armand Jean les titres puis les revenus de l'aîné. Alors, il en a encore plus. Le 19 novembre 1637, bon, il a 11 ans, 11 ans et demi, Armand Jean est présenté au chapitre, c'est épouvantable, au chapitre métropolitain de Paris, c'est-à-dire au chanoine, si vous voulez. Il prête le serment d'usage, puis est installé à son siège déjà. Il est nommé chanoine à 11 ans et demi. Alors, il reçoit des bénéfices encore. Alors là, tous les bénéfices sont assurés à sa famille. Sa famille est en sécurité. On y ajoute même ceux de l'abbaye de Saint-Clémentin en Poitou. Alors, ce gamin, que voulez-vous que ça lui fasse, lui? Pour le moment, il poursuit ses études, il est très brillant. Il a 3 professeurs qui l'émerveillent par son extraordinaire facilité pour les langues anciennes. Hein? Mais c'est vraiment un petit prodige. Non seulement est-il riche, mais il a tous les talents. C'est un phénomène. Ce petit prodige, je vous le rappelle, c'est le filleul de Richelieu. Alors, il aurait peut-être pu attirer sur lui puis sur les siens le regard de celui qui détient en ses mains les titres puis les fortunes du royaume. Et voici que paraît chez l'imprimeur Dugast l'Anacréon, qui est commenté en grec par le plus jeune spécialiste de la langue grecque de France et le plus jeune chanoine. Il n'a pas 14 ans, oui, il a 14 ans, il n'a même pas 15 ans. C'est Armand Jean, le boutillier de Rancé, c'est lui qui a publié ça, l'Anacréon. Et la dédicace qu'il fait au cardinal ministre de Richelieu semble manquer un peu de discrétion, il y a un style redondant. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a écrite. On sent que dans sa famille, on fait une espèce de requête. Hein, ça veut dire « mon parrain, oh s'il vous plaît, encore un petit bénéfice, j'en ai pas assez ». Richelieu ne se fâche pas, il sourit de tout ça. Il y a une promesse dans son sourire. Alors, l'affaire fait un peu trop de bruit, puis elle arrive aux oreilles du père Caussin, qui est le confesseur du roi. Père Caussin est un homme sérieux. Il y a 2 choses dans cette histoire qui demandent qu'on se questionne. Hein? Donner un nouveau bénéfice à un écolier de 14 ans, est-ce que ça a du bon sens? Alors, Armand Jean est demandé au couvent des Jésuites, rue Saint-Antoine, et dans la bibliothèque, là, le père Caussin, qui est jésuite, le toise, puis il lui met en main une édition d'Homère. Il l'ouvre. Et il lui dit, traduisez mon enfant. Et le petit chanoine n'est pas embarrassé pour si peu. Comme il lirait dans un livre français, il donne du texte grec une traduction parfaite. Et là, le père est ébahi, mais il pense soudain que sur l'autre feuillet, il y a le texte latin. Alors voilà qui aide le petit bonhomme. Hein? Alors, sur la page latine, bien, le bon père Caussin met un gant. Et puis, le petit, lui, sans se troubler, continue de traduire l'Iliade d'Homère à livre ouvert. Et alors, le bon jésuite, le père Caussin, exulte d'admiration. Armand Jean, le boutillier de Rancé, a désarmé complètement le père jésuite Caussin. Plus que le grec pourtant, plus que la philosophie, plus que la théologie, il aime l'astrologie même, il se met à rêver de découvrir un jour même la pierre philosophale, il est jeune, hein? Mais plus que l'astrologie, surtout, c'est la chasse qui le passionne. Un petit abbé mondain. Il fréquente la cour, la société brillante, il circule au milieu des robes de soie, les robes de brocart, les beaux costumes. Il porte lui-même un juste au corps, dit-on. C'est Don Gervaise, son successeur, là, qui écrit ça. Rancé porte un juste au corps violet, d'une étoffe précieuse, une cravate de point des plus à la mode, une chevelure longue, toujours bien frisée puis bien poudrée. 2 grosses émeraudes à ses manchettes, hein? Un diamant de grand prix au doigt. Mais ça ne l'empêche pas d'être aimable, il est brillant en tous les cas. Il séduit dans les salons, il charme du haut de la chair même, il prêche. Hein? Mais oui, il prêche, son titre de chanoine, ses thèses de philosophie, ses études de théologie lui permettent de faire ça. Puis il prêche, mais il convertit personne. On ne peut pas être surpris parce que... Où trouve-t-on Dieu dans tout cela? Où trouve-t-on Dieu dans sa vie? Où trouve-t-on Dieu dans ses sermons? La seule obligation d'ailleurs qu'entraînait avec lui son titre de chanoine, c'est-à-dire d'assister à la grande messe de Notre-Dame et à la communion aux quatre grandes fêtes de l'année, bien ses parents lui ont obtenu la dispense parce qu'on lui dit qu'il est trop jeune, ça pourrait trop le fatiguer. Alors prêcher pour attirer le renom et la gloire, ça c'est autre chose. Hein? Alors, et puis chasser, ah chasser, aller à la chasse, c'est le plaisir de choix, hein? Qu'importe l'épuisement. Voulez-vous savoir à quoi se passe le plus beau de la vie de l'abbé de Rancé? Il l'a écrit, « Ce matin, prêcher comme un ange, ce soir, chasser comme un démon. » Il n'est pas sérieux du tout, hein? Si intelligent soit-il, et Monsieur le Boutillier de Rancé, son père, doit se montrer content. Il réussit son fils, mais non, il n'est pas sot, il n'est pas qu'un sot. Il s'est mis en tête qu'il n'est peut-être pas fait pour l'état ecclésiastique. Alors là, on se demande qu'est-ce qu'il va devenir. Est-ce que Armand Jean, avec tous ses retards, va priver sa famille des revenus de l'archevêché de Tours, auquel on le destine? Alors, sans enthousiasme, l'abbé de Rancé, finalement, on l'appelle déjà l'abbé de Rancé, comme on appelle un prêtre séculier l'abbé, et même lui, on lui donne le titre puisqu'il a des abbayes, mais se prépare à recevoir les ordres mineurs, puis le sous-diaconat, le diaconat, il fait une retraite de 12 jours chez les lazaristes, là, les fils de Saint-Vincent-de-Paul. Il y a un des fils de Saint-Vincent-de-Paul, de M. Vincent, qui lui fait remarquer qu'il y a beaucoup trop de bénéfices, trop d'argent qui lui arrive de toutes ces abbayes. L'abbé le remet sèchement en place. Hein. Il verra cela plus tard, quand il aura eu le temps d'approfondir la question. C'est une pure formalité également que la réception du sacrement de l'ordre en 1651, c'est la condition indispensable, évidemment, pour accéder au siège archiépiscopal de Tours. Alors il est ordonné prêtre, et puis il se résigne à porter les cheveux courts, un petit collet, la soutane, et puis l'abbé de Rancé continue à mener la belle vie. Il poursuit cependant ses études de théologie, puis il est reçu même premier à la licence. Il est brillant. Et Bossuet, lui, dans la même classe, n'arrive que troisième. Son père, le sieur de Rancé, meurt. Un peu trop tôt pour voir le triomphe d'Armand Jean au doctorat, et cette mort semble pas avoir touché beaucoup le cœur de ce jeune chanoine de 28 ans. Mais elle lui apporte 2 hôtels à Paris, puis à Véretz, un château magnifique, un parc de 350 arpents, puis la forêt de Larcy, merveilleuse pour la chasse. Bref, sa montre s'est revenue à 50 000 livres. C'est la grande, grande richesse. Et en 1654, l'abbé de Rancé reçoit le bonnet docteur. Il prête serment, il jure devant l'hôtel des Saints-Martyrs en la cathédrale de Paris de répandre son sang, s'il le fallait un jour, pour défendre sa foi. Oui. Va-t-il le répandre? Eh bien, nous verrons tout à l'heure. Oui, d'une certaine façon, il va le répandre. Alors, au fond, là, dans la vie de l'abbé de Rancé, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement du succès mondain, du succès intellectuel, des parties de chasse. Mais ça aussi, c'est du grand succès, paraît-il, qu'il savait tirer. Puis, il y avait de l'amour, l'amour de la duchesse de Montbazon, dont je vous ai parlé au début, là. Cet amour, il vient de le perdre. Soudain, tout semble crouler. La mort de la duchesse, eh bien, c'est une mort inattendue. Ça lui apporte un message. Et ce message, il doit le déchiffrer. Il faut accepter cette mort, surtout. Et enfin, hélas, cependant, lorsqu'il a su que celle qu'il aimait n'échapperait pas à la mort, c'est lui, Armand Jean de Rancé, qui lui a parlé à son chevet, de l'au-delà, des jugements de Dieu, de la vie éternelle. Pourtant, il n'y pensait même pas lui-même, ça sortait de sa bouche, c'est tout, c'était son job, comme on dirait aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que c'est un prêtre. Il est prêtre du Christ, et puis, bon. Mais tout à coup, pour la première fois, il se rend compte. Hein? Il est prêtre pour l'éternité. Elle est entrée dans l'éternité, mais alors, s'il en est ainsi, là, Quel sens a eu sa vie jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il va se convertir? Non, pas encore. Il y a trop de liens. Trop de liens qui le rattachent si fort au monde, au bien-être, à lui-même. Mais la grâce est là pourtant. C'est la lutte inexorable. Mais Armand Jean de Rancy n'est pas un mollasson. Est-ce qu'il va capituler devant ses pensées spirituelles? Jamais. Non. Tout seul, dans son château de Véretz, l'abbé de Rancé a pris la plume, et loyalement, il dresse une liste, celle de ses bénéfices. Non, pas du tout, c'est pas celle de ses bénéfices. C'est celle des dangers de mort auxquels, depuis sa naissance, il a échappé, puis il en trouve 13 fois, se rappelle-t-il, si Dieu ne l'en avait tiré providentiellement, bien, il aurait dû mourir. Et sans doute, à chaque fois, c'eût été le péril de la mort éternelle, alors il écrit ceci, « Ô pauvre abbé de Rancé, où serais-tu maintenant si tu étais mort dans ce temps-là? » Et puis, c'est le premier triomphe de la grâce, l'acceptation de regarder le passé en face et d'envisager l'avenir à la lumière de Dieu. Il écrit ça dans une lettre à Madame de Lafayette, « À force de m'adresser à celui qui, seul, pouvait ôter de mon cœur les dispositions contraires » qui y avait été jusqu'alors et m'en donnait de nouvelles, je fus touché. Mes yeux s'ouvrirent. Je me laissai aller au mouvement qui me pressait et je résolus à ce moment d'être autant à Dieu que j'avais été au monde. Alors, conversion. Le mot peut être prononcé maintenant. L'abbé de Rancé est un converti. Et comme tous les convertis, il se met immédiatement en quête d'un directeur. Ah! Un directeur. Il est en rapport avec les oratoriens de l'oratoire. Il aurait voulu vendre tous ses biens, en distribuer l'argent aux pauvres. Là, le père Signaud freine ses désirs, pour bon qu'il soit. Il lui fait pratiquer la patience et la soumission. Ce n'est pas facile pour un homme tel que Rancé d'obéir. Un moment, il y a Arnaud d'Andilly, le grand janséniste qui prend en charge cette âme, Robert Arnaud d'Andilly. Cette âme, à tâtons, cherche sa voie. Un moment, des rapports cordiaux semblent se nouer entre Port-Royal, des jansénistes, puis le grand converti. Armand Jean de Rancé finira-t-il tout simplement par être un solitaire chez les jansénistes? Non. En fait, il ne se sent pas d'attrait pour Port-Royal. Pas plus d'ailleurs que pour les dominicains, les franciscains, pas davantage pour les jésuites, pour les oratoriens ou pour les sulpiciens. Quant à demeurer prêtre séculier, jamais. Rancé, par expérience, en connaît les dangers et il n'a plus à présent d'autre cuidance de présumer de ses forces. Alors que va-t-il devenir? Un bon jour, une lettre lui arrive dans sa solitude de son château de Véretz. Ce que d'aucuns lui avaient dit, déjà, sérieusement, avant sa conversion sur le cumul des bénéfices, mais un ami, un bon ami, qui se moque de sa retraite, le lui rappelle d'une plume ironique. Il lui dit, s'il prétend demeurer abbé, il faut qu'il se fasse moine. On n'est pas abbé sans être moine. Dans ce temps-là, abbé, ça voulait dire vraiment abbé de monastère, chef de monastère. Et lui, de répondre par ces mots, lourd de sens, ce que vous dites, monsieur, est très considérable. J'y ferai réflexion. Et s'il me paraît que cela soit nécessaire pour mon salut, eh bien, dès demain, je me ferai moine. Mais cependant, monsieur, frère du roi, monsieur, après ses coups manqués, ses intrigues politiques, ses aventures, lui, c'était assagi. Et ainsi, Gaston d'Orléans songe à se retirer dans son château de Chambord pour y faire retraite. Et ainsi, de plus en plus. Et alors, il veut s'entourer de quelques amis fidèles. D'emblée, Rancé accepte. Mais la mort, une fois encore, lui apporte un autre message. En janvier 1660, à Blois, monsieur, frère du roi, meurt. L'abbé de Rancé, elle, alors, assiste à ses derniers moments. Et personne, peut-être, ne pouvait mieux faire, car lui, il pouvait comprendre ce qu'est le repentir et la miséricorde de ce grand homme. De ce grand homme, puissant par son titre, mais petit par sa vie. Et pour l'abbé de Rancé, c'est une étape nouvelle, un besoin plus profond de silence et de renouvellement. Et son château de Véretz, qui est luxueux et charmant, ne manque de rien. Ça lui fait horreur. Où l'Évangile nous trompe, où c'est ici la maison d'un réprouvé, dit-il, écrit-il. C'est sa conclusion. Mais où doit-il aller? Alors là, il pense au Canada, à la Grande Chartreuse. Oui, le Canada à cause des relations des Jésuites. Et là, un évêque cherche à le diriger vers l'action apostolique. Mais il veut un dénuement plus grand. L'évêque lui dit, un autre évêque qui lui dit, « Combien gardez-vous de bénéfices ?»« 5 », répond l'abbé de Rancé. « Des bénéfices, beaucoup d'argent de différentes abbayes. Alors, un seul doit lui suffire. Et qu'il choisisse une de ses abbayes ou l'un de ses prieurés et qu'il s'y retire. Il n'aura plus besoin ni de laquais ni de carrosse. » Et c'est une chose entendue. Alors l'abbé de Rancé va se démettre de tous ses titres, sauf un. Il renonce à ses revenus. Il croit avoir, en faisant cela, franchi le dernier pas sur le chemin que Dieu lui trace, mais c'est une erreur. À Saint-Bertrand de Comminges, il a voulu s'arrêter avant de retourner à Vérès pour résigner ses charges. L'évêque qu'il y reçoit, c'est Monsieur Duplessis Pralin. Qui lui aussi est abbé commendataire, un abbé qui perçoit des bénéfices. Mais il croit que d'être commendataire comme ça, c'est contraire à l'esprit de l'Église. Je n'aurai pas de repos que je ne m'en sois défait, quoique j'en ai abandonné le revenu entre les mains du prieur claustral, lui dit-il. Et j'ai eu envie de me faire religieux et de mettre tout cela, pour cela, une de mes abbayes en règle. Mais Dieu ne m'en a pas jugé digne. Puisque vous êtes résolu de quitter le monde, Monsieur de Rancé, je vous conseille de prendre cette décision-là. Alors l'abbé de Rancé sursaute. Moi, me faire moine? Oh là là, moine. Il a pensé à la solitude, la pénitence. Mais s'il me paraît que cela soit nécessaire pour mon salut, écrit-il, dès demain, je me ferai moine. Mais il était alors confortablement assis dans un fauteuil de son château de Vérès. Et de ses abbayes, il ne connaissait, en somme, que les bénéfices. Il ne savait rien de plus. Alors un bon jour, il arrive à la Maison Dieu, Notre-Dame de la Trappe, c'est son abbaye. Que va-t-il se passer? Les bâtiments tombent en ruine, les ronces grimpent partout. Il n'y a plus que, au lieu de 200 moines, il n'en reste plus que 6. Et ce sont des moines, des braconniers, des moines malhonnêtes. Des moines qui vont même jusqu'à tuer un passant pour le détrousser. L'abbé de Rancé vient pour les réformer, lui. Alors, les réformer, eux, ils croient qu'il a perdu la tête. Non, qu'il touche donc ses revenus, puis qu'il s'en aille. Hein. Alors, vraiment, le 20 août, en la fête de Saint-Bernard, l'abbé de Rancé célèbre la grand-messe dans l'église réparée, finalement. Et des moines de l'étroite observance sont revenus peupler la Trappe, petit à petit. Et la vie cistercienne va reprendre dans la Trappe et les moines vont chanter. Alors la vie cistercienne, au monastère de la Trappe, c'est le nom du monastère, vie cistercienne régulière et fervente, a donc repris. L'abbé commendataire Armand Jean de Rancé ne vit plus que pour ses moines, il les instruit, il les dirige. Mais il n'est pas l'un d'eux. La maison abbatiale menace ruine, elle aussi. Il faut la réparer, alors tout près du monastère. Mais c'est hors de la clôture. Et l'appartement qu'il va occuper sera pauvre quand même, austère, comme la cellule des moines. Mais ce ne sera pas une cellule. Or, la veille de la Toussaint, c'est le 333e anniversaire aujourd'hui même, la veille de la Toussaint. Il visite sa demeure. Les ouvriers achèvent la besogne, tout est simple, pauvre. Tout ça, ça lui plaît. Lieu de solitude et de silence. Enfin. Alors, il décide de s'y installer le lendemain, le jour de la Toussaint, demain. Et tout à coup, un fracas dans la pièce, qu'à peine il vient de quitter. Et l'appartement s'effondre, et l'abbé de Rancé songe à cette liste. Ce vœu qu'il avait fait avant sa conversion, là, les 13 dangers de mort dont Dieu l'avait retiré. Alors voici le 14e. Alors y voilà un message encore, et sans plus tarder, eh bien l'abbé de Rancé rédige son testament. À l'abbaye de la Trappe, il lègue tous ses biens, qui sont immenses. Ses meubles, ses livres. Maintenant, il n'a plus rien à lui donner, rien. Mais il y a tout encore à lui donner. Il faut qu'il lui donne son corps, son âme, tout, sa vie. C'est dans le psaume 124, hein, ceux qui se confient dans le Seigneur seront comme la montagne de Sion, rien ne pourra plus les ébranler. Et c'est ce que chantent les moines à l'office de sexte. Agenouillé près de l'autel, l'abbé de Rancé, l'abbé commendataire, fait son action de grâce après la messe qu'il vient célébrer. Et pourquoi cette parole de l'Écriture sainte que je viens de vous lire, que tant de fois il a entendue, pénètre tout à coup soudain jusqu'au fond de son âme? C'est comme une épée à deux tranchants. D'un coup, elle a brisé les dernières résistances. Et enfin, c'est l'acquiescement total, sans réticence et sans condition. Et avec l'acquiescement vient la paix. C'était le 17 avril de l'an de grâce 1663. Je dis bien l'an de grâce. À l'abbaye de Persaigne, le novice de 37 ans a reçu la chape monastique. Une fois prise sa décision, un obstacle du côté du vicaire de la réforme cistercienne qui met en doute d'abord une pareille conversion. Obstacle de la part du roi aussi, et surtout, qui n'aime pas beaucoup ces transformations-là. Il a peur qu'une conversion de ce genre devienne contagieuse chez les abbés commendataires. Et alors, Sa Majesté le roi serait privé de 1000 ressources pour récompenser les services de ses sujets les plus dévoués. Mais alors, pour Rancé, ses difficultés étaient bien peu de choses. Au prix de la violence qu'il avait dû se faire pour triompher de lui-même, maintenant il est moine. Une fois le pas franchi, le voici qui s'élance à corps perdu dans la voie de la perfection. Oui, à corps perdu, c'est bien cela. Alors Rancé, devenu moine, va garder son tempérament, fougueux. Fougueux, impétueux et ennemi des demi-mesures. Je vous ai dit qu'on l'avait surnommé l'abbé Tempête, hein? Mais le novice a présumé de ses forces, et là son corps n'en peut plus. Son corps crie grâce, alors les médecins appelés hochent la tête, se posent des questions. Les anciens amis, eux, haussent les épaules. Voilà où l'a conduit sa folie. Mais c'est pas la mort, non, non. Rancé triomphe de sa fatigue et de sa maladie. Lorsqu'il fait ses vœux en juin 1664, il ne demande qu'une faveur et une seule. C'est qu'il lui soit permis de rendre à son abbaye de la Trappe l'exacte discipline du temps de son fondateur. Même les cisterciens de la stricte observance avaient cru devoir y apporter quelques adoucissements. Et Rancé, lui, s'il est moine, il veut l'être absolument. Imaginez l'abstinence de poisson ajoutée à l'abstinence de viande et d'œufs. Ça date de la réforme de l'abbé de Rancé. Mais je ne crois que tout ça, depuis le concile, a été allégé un peu. Lorsqu'il fait donc ses vœux, il est vraiment décidé. Mais est-ce que c'est un feu de paille? Un enthousiasme passager? Mon désir de retrouver encore un peu de succès, il était tellement habitué au succès, mais pas du tout. C'est une conscience plutôt de répondre pleinement à ce que doivent être les exigences de Dieu, d'après lui. Peu importe ce que ça va lui coûter, il dit « Je me suis consacré à Dieu pour le reste de mes jours dans une condition qui m'a paru très vile et très méprisable. » Il ajoute « Et par conséquent, très propre pour faire pénitence de mes péchés. Je sais bien que j'ai frappé à la seule porte qui m'était ouverte, et que je ne pouvais entrer que par là, dans la paix de Jésus-Christ. » Alors cet abbé commendataire a résigné son titre, au profit d'un ami. Il n'est plus rien, finalement, qu'un moine, un abbé régulier, qui s'astreint à la règle, avec l'intransigeance qu'il va exiger des autres. Il est le premier à l'office au cœur, le premier au travail des mains, dans les ateliers, dans les champs. Et cependant, survient encore une difficulté. C'est sur l'abbaye, cette fois. Les moines de l'observance commune, est-ce qu'ils vont ruiner la stricte observance qui a été reconquise si durement? Et c'est à Rome, à présent, que lutte l'abbé de la Trappe. Il s'agit d'obtenir du pape, pour lui et pour ses moines, la permission de vivre en vrai fils de Saint Bernard, selon sa conception. Alors, on taxe d'insensé une pareille prétention. C'était bon au temps héroïque, au temps primitif de l'ordre. Mais maintenant, les temps ont changé, les temps ont changé. Alors, les négociations sont très épineuses et délicates et longues. La cause de la stricte observance est plus encore, évidemment, de celle de la trappe, semble un moment perdu, puis tout à coup, grâce au cardinal de Retz, qui appartenait à la fameuse famille de Gondi, hein, on a vu ça dans la vie de Saint-Vincent de Paul, et alors ce cardinal de Retz, bien, c'est grâce à lui, et on est surpris du secours qui vient de lui, eh bien le conflit prend fin. Et à la Maison Dieu Notre-Dame de la Trappe, c'est le nom officiel du monastère, c'est un beau nom, hein, la Maison Dieu Notre-Dame de la Trappe. Eh bien, l'abbé de Rancé, dès lors, a le droit de conduire ses moines sur ce sentier très très rude qui mène à Dieu dans le renoncement, la pénitence, dans la vraie liberté et ce qu'ils considèrent, eux, comme l'authentique joie. Je me souviens quand j'allais à la Trappe d'Oka autrefois, quand il vivait un peu dans ce genre-là, il y avait une joie étrange et étonnante chez les rares moines auxquels on pouvait adresser la parole. Et c'est encore la même chose aujourd'hui, même s'ils ont atténué les pénitences. Ils ont peut-être augmenté leur amour. Pour l'abbé de la Trappe, Rancé, heureusement, il prend soin de nous le dire, pénitence n'est pas tristesse. Mais cette joie qu'il propose, cette joie qu'il a trouvée, c'est bien la joie de ceux qui ont triomphé des grands obstacles. Toute la vie de l'homme, s'écrit l'abbé de Rancé, n'est qu'une tentation perpétuelle, et donc un combat. Alors, batailler âprement comme ça, pour triompher de lui-même, ça n'a pas, on pense bien, atténué une part de sa personnalité qui est un peu désagréable, c'est son esprit agressif, absolu, démesuré un peu, qui de tout temps paraît avoir été la marque personnelle de son tempérament. Coupez, mes frères, taillez, déracinez, ne gardez nulle mesure dans les retrachements et les privations, disait-il. Bah, d'exhorter comme ça. Il entraînait à l'assaut d'une forteresse ses moines. Eh bien, la tentation, le péché, l'ennemi à vaincre, la faute à expier, c'est toujours le même thème. Hein? Il dit, les chrétiens savent que l'obligation principale de tous les pécheurs, c'est-à-dire de tous les hommes, est de s'affliger de leurs iniquités. Alors, pénitence, donc humiliation, humiliation sous toutes les formes. Il en vient à l'exagération, vous allez voir. Il ne s'agit pas ici, comme un Port-Royal, de briser la nature tout en exaltant la fierté et l'orgueil. Non, non, il y a beaucoup d'humilité chez ces moines-là. C'est une lutte incessante, puisque l'ennemi, lui, ne s'endort jamais. Or, l'abbé de Rancé, plus que quiconque, est chargé de monter la garde auprès du troupeau là, qui lui est confié. C'est son premier rôle. Il veut s'en acquitter. Il dit, « Mes frères, on ne me persuadera pas de me relâcher de ma vigilance. Non, non, je ne cesserai pas, selon l'ordre que m'en donne le saint apôtre, d'user à votre égard de prières, d'avertissements à temps et à contre-temps. » Réflexion et règlement, traité sur la sainteté, les devoirs de la vie monastique, conférences, tous ces écrits, j'en ai, moi, ici, dans des éditions de 1703, trois ans après sa mort, j'ai ça devant moi, là. C'est amusant, c'est intéressant, enfin, c'est quelque chose d'un peu particulier dans ma bibliothèque. C'est pas tout à fait le genre de choses que j'aime lire, mais enfin, toutes ces choses-là, ces écrits ont le même accent, hein. C'est véhément, c'est tranchant, et c'est même excessif, parfois. Il y a des belles choses, aussi. On y découvre, de la vie d'un de ses compagnons temporains, un fond de tranquillité. Mais c'est vrai. L'abbé de Rancé demeure donc l'abbé Tempête. Il est aussi le fils de Saint-Bernard et le doux Saint-Bernard. Alors sa fougue, sa véhémence sont mises au service du bien. Mais tout de même, ça nous effarouche, moi ça m'effarouche en tous les cas. Mais ça se trouve tempéré, lorsque tout à coup il parle de Notre-Dame. Hein. Il parle admirablement bien de la Sainte Vierge. Hein. Il dit même, elle est la médiatrice entre Jésus-Christ et les hommes. C'est elle qui prend plaisir à nous communiquer les grâces de son Fils. Oh, quel vide dans la vie d'un chrétien quand il n'a pas soin de s'adresser à la Sainte Vierge. On sait tous hein, que chaque soir, après compis, les moines saluent la Reine des cieux par l'antienne du Salve Regina, comme on l'a entendu tout à l'heure il y a près d'une demi-heure. Hein. Les cœurs s'apaisent dans ce moment-là, les traits se détendent. Un instant de repos après la lutte quotidienne, et ils chantent un « O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria hein? ». Ce sont les derniers mots du Salve Regina, ce serait, paraît-il, vraiment de Saint Bernard. Saint Jérôme, autrefois, avait eu un songe étrange. Devant lui se tenait le Christ. « Qu'es-tu ? » lui demande-t-il. Et l'ermite, en sa grâce sauvage, de répond « Je suis chrétien ». Il s'était fait dire par Jésus « Non, 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 tu es cicéronien ». Eh bien, le même problème a surgi. Hein? L'abbé de Rancé, lui, il voit ça, non pas en songe, mais il veut rompre avec tout son passé, toute sa jeunesse. Il veut quitter Homère, Théocrite, Virgile, les poètes, Tite Livre, Tacite, les historiens. Il veut chasser ça de son monastère. Mais Mabillon, Don Mabillon, ça vous dit quelque chose, là, qui vivait à Saint-Germain-des-Prés, un grand bénédictin réformé de Saint-Maur, la même congrégation où est entré le fils de notre chère Marie de l'Incarnation, Don Claude Martin, ce fils qu'elle avait abandonné, n'est-ce pas, pour entrer chez les Ursulines. Eh bien, Don Mabillon a protesté. Ça a fait une polémique épouvantable. Mabillon est allé s'expliquer même à la trappe, et en 1699, Rancé, dans son traité des obligations des chrétiens, nuance sa pensée. Lui qui adorait ces écrivains-là, eh bien, il s'est calmé. Mais tout de même, il reste bien dans la lignée sévère, trop rigide, et par le fait même inexact, en fin de compte. Il est dans l'esprit que même Bossuet suivait dans ses fameuses maximes et réflexions sur la comédie. Mais pourtant, on le sait bien que toute beauté humaine est un reflet de la beauté de Dieu. Alors pourquoi la rejeter? Pourquoi rejeter ce qui est beau? Que le sacrifice des joies très légitimes soit demandé à quelques-uns, ok, d'accord. Mais dans le domaine de l'esprit, condamner en bloc au nom de la vie parfaite toute culture humaine, c'est une grave erreur que l'Église rejette, avec raison. Que des trappistes l'aient fait, ok, dans des monastères. Mais ce qui manque à l'abbé de la Trappe, il faut le reconnaître, c'est pas la grandeur, c'est pas la générosité. C'est ce qu'il exige des autres. Il l'exige de lui d'abord, ce qui lui manque, c'est ce que Saint Benoît, dans sa règle, à la base du monachisme cistercien, a si nettement défini dans ce mot, la discrétion, qui est la mère des vertus. C'est au chapitre 4. Alors l'abbé de Rancé, il semble bien, vu que ses fils marchent au pas de charge. C'est ça sa démesure. C'est pas dans le but qu'il exagère, c'est dans la manière. Hein. C'est pas dans l'amour, car la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, hein, on le sait. Mais c'est dans la façon d'en exiger la preuve de cet amour. Mais c'était un grand siècle que le siècle de Louis XIV. Non pas par les tragédies seulement, ni la galerie des glaces, hein, malgré ses exigences, la rigidité, mais l'abbé de la Trappe voit son désert affreux se peupler de disciples, de fidèles nombreux. Alors là, il y a des moines vraiment réguliers que la rude discipline ne rebute pas. Ils s'épanouissent à plein dans cette règle. Ils étaient souvent d'une trempe peu commune, et parmi eux, il y a eu, on peut s'y attendre, des cas très spéciaux, des originaux et des saints à foison. Alors donc, à la Trappe, l'abbé de Rancé avait des recrues de toutes sortes. Je vous fais grâce des gens qui pouvaient y avoir là, des gens absolument étranges. Et on peut dire qu'avec de telles recrues, bien, peut-être que la manière forte de l'abbé de Rancé était dans la note. Hein. La Trappe, en tous les cas, est devenue un nom célèbre. Et l'abbaye réformée attire, tout comme Port-Royal des Champs, au temps de sa splendeur, ben, elle attire des hôtes, des pèlerins, qui, lorsqu'ils s'en retournent, sont dans l'admiration. Êtes-vous déjà allé dans un monastère, passer quelques jours? Vous serez dans l'admiration. N'hésitez pas. Vous ne pouvez pas aller à la Trappe d'Oka, vous pouvez y aller en autobus. Oui, il y a des autobus qui partent du nord de la ville et qui vous déposeront à la porte. Ou aller chez les Clarisses, au métro Laurier, sortie nord. Alors, de ces visiteurs, il y avait des gens très importants, comme Pélisson, qui a été secrétaire de Nicolas Fouquet, n'est-ce pas, qui a été emprisonné de 1661 à 1681. Là. Et puis, son secrétaire a abjuré le protestantisme, après cette visite. Il y a le cardinal d'Estrée, le cardinal de Bouillon, Jacques II, roi déchu d'Angleterre, monsieur frère du roi de France, etc., etc. Bah. Le duc de Saint-Simon, même. Bossuet, même. Qui considérait l'abbé de Rancé comme son ami. Et il le considérait comme le second Saint Bernard. C'est un peu fort. Bien plus nombreux encore sont les correspondants qu'il avait. Les correspondantes, aussi les dirigés de l'abbé de Rancé, des femmes du monde qui lui demandaient conseil, des princes de l'Église même, comme le cardinal François de Clermont-Tonnerre, pas n'importe qui. Et quantité d'autres. Je vous fais grâce de tous ces noms, le cardinal de Retz, évidemment. Et pendant que la Maison Dieu Notre-Dame de la Trappe se relevait de ses ruines et devenait très populaire, l'abbé de Rancé, lui, voit les épreuves qui s'abattent sur lui. Oh là là, c'est long, c'est la fatigue, les maladies, l'épuisement, la fièvre lente, un érysipèle, un abcès, et surtout rhumatisme violent qui lui rend impossible l'usage de sa main droite. Mais ce qui est pire, comme pour Jésus-Christ, lui sont venues des calomnies, des méchancetés odieuses, des attaques plus ou moins sournoises contre son œuvre de réforme. Des lettres forgées de toutes pièces par ses ennemis et perfidement adressées à la cour pour le perdre dans l'esprit du roi. Des accusations fielleuses qui parvenaient à Rome. La défection de quelques moines. C'est Don Le Nain qui raconte que pourtant l'abbé était toujours tout droit dans sa stalle, sans s'appuyer sur les côtés des chaises, ni sur les sièges de miséricorde. Ça vous dit quelque chose, un siège de miséricorde? Vous savez, c'est une petite demi-lune, petite pièce de bois, qui est fixée sous la stalle des moines. Quand on relève le siège, on a ce petit siège, on peut s'appuyer quand on est debout. Ça permet d'être debout sans trop de fatigue. Mais il ne s'en servait pas. Il trouvait que ces dernières années l'incommodaient beaucoup. Il avait de la peine à se soutenir avec un bâton. L'abbé de Rancé, d'ailleurs, écrit en 1665 à Mère Louise, « Demandez à Dieu pour moi la grâce de bien porter sa croix. Je ne lui demanderai jamais d'en être délivré dans ce monde. » Vivre en chrétien, c'est vivre dans la souffrance. Imaginez, c'est terrible ça. Vivre en chrétien, c'est vivre dans la souffrance. Il y a quelque chose de terriblement janséniste là-dedans et de terriblement négatif. S'il disait « vivre en chrétien, c'est vivre dans l'amour au creux de sa souffrance, dans la sérénité et dans la joie que procure l'Esprit-Saint. J'aimerais mieux ça. » Je rappelle donc les paroles de Rancé. « Vivre en chrétien, c'est vivre dans la souffrance. Nous pouvons lui demander la force de souffrir, mais non l'exemption des peines. Et c'est sûr que nous souffrons tous, je ne nie pas ça. » Mais c'est le lot de tout le monde, pas seulement les chrétiens. Je pense que même les gens qui ne sont pas chrétiens souffrent davantage, à mon avis. Alors, en vérité, Dieu l'avait pris au mot, et il souffre terriblement. Terriblement. J'ai le goût de vous lire, brièvement, ce que Chateaubriand raconte, car Chateaubriand a écrit sa vie et sa mort. On dit, on envoya chercher l'évêque de Sèze, l'ami et le confesseur de Rancé. Rancé témoigna beaucoup de joie en l'apercevant. Il saisit la main du prélat, la porta à son front pour commencer le signe de la croix. Il fit ensuite une confession générale. Il supplia l'évêque de Sèze d'obtenir la protection royale en faveur de la discipline monastique de l'abbaye, ajoutant que dans toutes les autres choses, il souhaitait que la Trappe fût complètement oubliée. Chateaubriand écrit plus loin, Rancé, apercevant un religieux qui pleurait, lui tendit la main et lui dit, « Je ne vous quitte pas, je vous précède. » L'évêque de Sèze, est-il écrit plus loin, lui ayant demandé s'il avait toujours eu pour ses religieux la même charité, « Oui, monseigneur, répondit le saint homme, l'abbé de Rancé. Depuis quelques années, par la grâce de Dieu, je ne suis plus qu'un simple religieux comme les autres. » Ils sont tous mes frères et ne sont plus mes enfants. S'il m'était permis de regretter la perte de ma voix, ma douleur serait de ne pouvoir leur faire entendre combien je les aime. Et plus loin, on dit que le lit de cendre était préparé. Rancé le regarda tranquille, avec une sorte d'amour, puis il céda lui-même à se coucher sur le lit d'honneur. L'évêque de Séez dit, « Monsieur, ne demandez-vous pas pardon à Dieu ?»« Monsieur, répondit l'abbé, je supplie Dieu très humblement du fond de mon cœur de me remettre mes péchés et de me recevoir au nombre de ceux qu'il a destinés à chanter éternellement ses louanges. » Les forces venant à lui manquer, il s'arrêta. L'évêque dit, « Monsieur, me reconnaissez-vous ?»« Monsieur, répliqua l'abbé, je vous connais parfaitement, je ne vous oublierai pas. » L'évêque de Séez, c'est en tant qui, si l'on avait donné quelque chose au mourant pour le soutenir, l'abbé de Rancé fit lui-même la réponse, « Rien n'a manqué à l'attention de leur charité. » Il s'établit, par les paroles de l'Écriture, un dernier dialogue entre l'agonisant et l'évêque. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, » dit l'évêque. Et l'abbé de Rancé répond, « Je mettrai en lui toute ma confiance. » Alors son directeur de conscience, l'évêque, lui dit, « Seigneur, c'est vous qui êtes mon protecteur et mon libérateur. » Et l'abbé de Rancé ajoute, « Ne tardez pas, mon Dieu, hâtez-vous de venir. » Et ce furent les dernières paroles de Rancé. Il regarda l'évêque, leva les yeux au ciel et rendit l'esprit. Il fut enterré dans le cimetière commun des religieux. Et voilà. À la lecture aujourd'hui, l'épître est tout à fait conforme. C'est la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens sur le combat de la vie chrétienne. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres, qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat, ainsi quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. Tenez donc, ayez autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à l'annonce de l'Évangile, ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui nous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais, et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je salue aujourd'hui nos très bonnes rédemptoristines de Sainte-Thérèse, dont le couvent a brûlé, qui sont en train de le reconstruire. Elles terminent cette grande année en l'honneur de leur fondatrice, Mère Marie-Céleste. J'avais fait une émission, il y a un peu plus d'un an, le 14 septembre, sur cette religieuse extraordinaire, qui a fondé cette congrégation admirable des rédemptoristines de Sainte-Thérèse. Allez dans ce monastère, vous verrez des religieuses heureuses.